Bonjour, voici la rediffusion d'une émission consacrée aux services secrets avec Sébastien Laurent. La première diffusion remonte au 18 février 2017.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
À peine installé, Premier ministre, Jacques Chirac m'avait dit il faudrait qu'on fasse attention à ne pas être écouté. Je lui ai dit, tu vas être écouté par qui? Il me dit, tu sais, on ne sait jamais, etc. D'après toi, quel est le téléphone le plus sûr, etc. Alors moi, bêtement, je lui dis l'interministériel. Il me dit, ah bon, tu es sûr? J'ai dit oui, le standard est ici. De ce jour-là, il m'a plus appelé sur l'interministériel.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Tout conspire, et je choisis le verbe, tout conspire à inscrire dans l'actualité notre sujet d'aujourd'hui. Il s'agit des services secrets en France au long des deux derniers siècles. Il y a belle lurette que plus personne ne croit que les démocraties puissent faire l'économie d'une politique de l'ombre, ne serait-ce que parce qu'elles rencontrent les autres régimes dans d'impitoyables affrontements et concurrences. Les politiques de l'ombre, c'est le titre de l'un des livres de mon invité, Sébastien Laurent, politiste et historien, professeur à l'université de Bordeaux, spécialiste des questions de sécurité. Cette sécurité que les attentats djihadistes mettent si violemment en péril, chez nous et ailleurs. Cette sécurité qui est de la responsabilité, notamment, de services dont la nature même exclut qu'ils travaillent au grand jour. Nous allons parler de renseignements. Une loi toute récente vient d'en favoriser la quête, au-dedans et au-dehors, non sans susciter quelques inquiétudes du côté des libertés publiques. Nous allons parler d'espionnage, celui qu'on organise à l'étranger, celui qu'on s'efforce de débusquer à l'intérieur des frontières. Nous allons parler même d'opérations spéciales échappant au principe de la guerre ouverte. En nous demandant, par intervalle, si l'avènement des nouvelles technologies marque une rupture essentielle dans ses activités dissimulées, ou bien si, en dépit d'elle, c'est la continuité qui l'emporte.
Pour être un agent secret, un conseil, soyez discret, ne faites pas comme 01 qu'on a trouvé mort dans son bain. Pour être un agent secret, il vaut mieux rester muet. Ne faites pas comme 02, mort d'une balle entre les deux yeux. Pour être un agent secret, il vaut mieux avoir du nez. Voyez l'agent 03, c'est le poison qui l'emporta. Pour être un agent secret, au pire il faut s'exposer. Voyez l'agent 04, ils ont bien fini par l'abattre. Pour être un agent secret, des filles il faut se méfier. 05 ne l'a pas cru, c'est pour ça qu'il fut descendu. 06, vous le savez, lui aussi fut liquidé. Il avait un grand couteau bien planté au milieu du dos. Il meilleur agent secret. Je crois qu'il fait du ciné. Regardez bien, 6 plus 1, oui ça fait 7, vous comptez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est devenu vedette dans les films qui font recette. C'est le seul qui n'est pas mort. C'est vraiment lui le plus fort.
Sébastien Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous avez, j'en suis sûr, reconnu Petula Clark, l'agent secret, 1966. J'ai choisi cette ouverture pour notre conversation parce que nous ne pouvons pas nous dissimuler qu'autour de ces questions de services secrets circule tout un ensemble de fantasmes, d'imagination, entre le sulfureux et la gaieté parfois. Ce qui donne une tonalité particulière à ce grand sujet.
On est dans le règne de la fantasmagorie, en effet. Lorsqu'on s'intéresse aux services secrets, il faut essayer de dissiper un peu ces fantasmes, ces représentations, et finalement essayer de prendre le secret au sérieux.
On a envie de dire chute pour commencer l'émission, mais c'est assez contradictoire. Et pour l'historien, c'est quelque chose qui est assez familier, lutter contre le secret. Simplement, il y a des thèmes qui s'enveloppent particulièrement de mystère.
Effectivement, la lutte contre le secret, c'est le travail constant de l'historien, mais cette thématique-là, cette réalité politique-là dont nous allons parler ce matin, elle est effectivement enveloppée par des linges peu transparents qu'il faut soulever un à un pour essayer de regarder et derrière d'essayer de comprendre.
Ce n'est pas une raison pour nous décourager d'aller chercher en profondeur un certain nombre de réalités, tout en sachant que cette dialectique du mystère et de la transparence donne une couleur originale aux travaux que vous conduisez.
En effet, et ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'aller et d'approcher au plus profond de la réalité qui se trouve derrière le secret de renseignement, et on atteint les contours d'une réalité très commune, mais en même temps très méconnue, qui est l'État.
En sachant qu'on ne fera jamais litière d'un certain nombre de mythologies qui entourent ce thème. Alors allons-y, n'attardons pas davantage, et peut-être faut-il revenir brièvement à l'Ancien Régime, au secret du roi, au moment où est né le cabinet noir en particulier.
Alors dans le cas français qui nous occupe ce matin, on a une particularité. C'est que ce secret du roi, ces cabinets noirs, traduisent au XVIIIe siècle le rôle nouveau d'un certain nombre de diplomates qui travaillent directement, en l'occurrence pour le souverain Louis XV, et qui débordent de la diplomatie officielle du secrétaire d'État. C'est-à-dire que le souverain Louis XV, pour les affaires polonaises notamment, entretient des réseaux parallèlement à ses représentants officiels. Et donc, dès ce moment-là, on a la traduction du fait que, eh bien, le renseignement agit dans l'État, mais dans une partie non officielle de l'État.
À côté, en particulier, des ambassadeurs, il y a des agents secrets. Certains sont restés célèbres, ne serait-ce que parce que les romanciers s'en sont saisis, Alexandre Dumas et d'autres. C'est Casanova, dans les mémoires de sa vie, qui écrit « Les seuls espions avoués sont les ambassadeurs ».
C'est très intéressant parce que, au-delà de cette phrase de Casanova, quand on regarde la littérature professionnelle des diplomates à l'époque, on trouve dans tous les traités de diplomatie un double langage, un double discours. D'une part, l'espionnage est une chose infâme, condamnable, au nom de la morale, pas toujours de la morale chrétienne d'ailleurs, mais au nom de la morale. Et dans le même temps, d'autres traités de diplomates et de diplomatie font assaut de réalisme et préconisent le fait que l'ambassadeur est finalement, comme c'est souvent qualifié à l'époque, ce n'est rien d'autre qu'un honorable espion. Et je reprends exactement les termes des grands traités de diplomatie. Donc il y a une hésitation permanente entre jugement moral et acceptation de la réalité.
On rencontre là Montesquieu qui, dans l'esprit des lois, écrivait « L'espionnage serait peut-être tolérable s'il pouvait être exercé par d'honnêtes gens, mais l'infamie nécessaire de la personne peut faire juger de l'infamie de la chose ». Il pense donc que les ambassadeurs doivent être en principe maladroits pour exercer cette activité.
C'est l'idée effectivement que développe le baron de la Brède, mais il y a comme ça toute une série de jugements qui vont jusqu'à avoir dit chez un auteur britannique que c'est un métier de voyou qui doit être pratiqué par des gens respectables. Vous voyez, on peut inverser les registres. Il y aura toujours cette idée que c'est à la fois nécessaire, mais qu'en même temps c'est infamant, ce n'est pas correct. Aussi bien au regard de la morale qu'au regard du droit.
J'observe que vous appelez Montesquieu le baron de la Brède, je reconnais là l'universitaire de Bordeaux, mais fermons cette parenthèse. Et à côté des ambassadeurs, dès ce moment-là, il y a des agents secrets, notamment le chevalier Déon, par exemple, qui est resté célèbre, ou Beaumarchais, qui est restitué dans ce film d'Édouard Molinaro, que vous connaissez sûrement, qui s'appelait Beaumarchais l'insolent. Écoutez cette conversation à trois, avec trois grands comédiens, c'est Michel Serrault qui est Louis XV, Jean-François Balmer qui est le lieutenant de police et Fabrice Lucchini qui joue Beaumarchais. C'est un film de 1996.
Voici un ordre de mission. Vous embarquez pour Londres après-demain. Un ami vous permettra d'y rencontrer quelqu'un.
Ou quelqu'une. Son sexe importe peu, mais n'est pas défini.
Le chevalier Déon.
Mais vous savez donc tout.
Je sais peu de choses, sire, non. Sinon que ce monsieur ou cette demoiselle fut le meilleur de vos agents. Intrépide, rusé.
Corrompu, hypocrite.
Je ne crois pas qu'un saint ferait ce métier-là.
Cet individu détient un document de première importance, un document dangereux pour la France, qu'il faut rapatrier à n'importe quel prix.
Le service du roi, sire, n'a pas de prix.
Le service du roi n'a pas de prix, Sébastien Laurent, un service qui est multiforme.
Un service qui est multiforme et qui, au moment de la Révolution française, va être l'objet d'une grande transformation. À partir de la Révolution française, on assiste à une évolution importante qui voit les militaires contrebattre, lutter contre le pouvoir dominant qu'ont eu les diplomates ou des gens de l'entourage du roi, qui menait ses missions de diplomatie parallèle à l'image du secret du roi, à l'image de Beaumarchais.
Il va y avoir toujours plusieurs acteurs dans le champ que nous explorons ce matin, celui des services secrets. En effet, les policiers et les diplomates, plus des agents secrets. La police politique, à proprement parler, se développe sous la Révolution française.
Alors elle joue un rôle considérable, cette police politique. On sait que ce sont des décrets de la Convention qui créent un système de surveillance extrêmement puissant et qui repose sur une police tout à fait particulière.
Le ministre de l'Intérieur apparaît à ce moment-là.
Exactement, un ministre de l'Intérieur. Il y aura ensuite un ministre même de la police, ce qui est tout à fait original dans l'Europe à l'époque. Mais ce qui est important dans le cas français, c'est que même si ce renseignement pratiqué par les diplomates légaux et les diplomates illégaux, pourrait-on dire, même si ce renseignement est important, la singularité française est d'avoir toujours eu un acteur policier important sur la scène du renseignement public avant la Révolution. Et la Révolution, les comités de surveillance, la terreur politique vont accroître cette part du renseignement policier. La singularité française et la précocité de son appareil policier, la deuxième particularité française, c'est que la France a très tôt assumé cette fonction de police politique, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté du Channel. Et en Grande-Bretagne, lorsqu'on crée une police, on explique dans les années 1830 que l'on prendra le contre-pied du modèle tyrannique qui est celui de la police française. Donc la France sert d'épouvantail pour bâtir une police Whig, une police civilisée, qui ne sera surtout pas cette police secrète française que la Révolution a poussée à son apogée.
C'est aussi au temps de la Révolution que surgit un autre acteur de cette affaire, c'est-à-dire la presse. Dès l'Ancien Régime, Renaudot avec sa Gazette servait de collaborer à la quête des renseignements au profit de la monarchie, mais cela devient clair à partir de la Révolution française, de manière toujours ambivalente, puisque la tâche de la presse, c'est de lever le voile, et dans le même temps, elle peut devenir complice de la police d'une manière ou d'une autre. C'est toujours vrai aujourd'hui.
Effectivement, ça nous fait comprendre d'ailleurs que le renseignement n'est rien d'autre qu'une information. Et à travers les âges, on prend la mesure du fait que l'État, dans un cadre non démocratique, dans le cadre de la monarchie, ou dans un cadre démocratique, comme sous la République, hier et aujourd'hui, l'État tente d'infléchir ces informations, et donc tente d'avoir un rôle particulier en matière de presse. Et la France, qui a connu des chaos politiques au XIXe siècle, a tenté de façon continue d'influencer la presse et finalement nous permet de comprendre que le renseignement, ce n'est rien d'autre que des jeux d'informations divers.
La Restauration est aussi une étape qui introduit des nouveautés du point de vue qui nous occupe, du point de vue des services secrets.
Alors la Restauration, c'est une phase importante parce que la Restauration, il suffit de lire Chateaubriand pour comprendre qu'il a fallu ériger la Révolution en contre-modèle. Et Chateaubriand explique bien que c'en est fini de la tyrannie et que avec le régime restauré de la monarchie, un régime nouveau viendra sur les fonts baptismaux en France. Mais la Restauration ne fait rien d'autre que conserver, et c'est une leçon pour l'historien, les structures de police politique. Elles sont moins importantes en nombre, il y a moins de moyens, mais la police politique de la Restauration est plus discrète que celle de l'Empire, mais elle subsiste néanmoins.
L'ombre de Fouché est toujours là.
L'ombre de Fouché est là, et ses successeurs sont toujours actifs, au profit désormais de la cause royale.
Mais c'est aussi à ce moment-là, Louis XVIII, Charles X, que se précise dans le budget la ligne des fonds spéciaux, qu'on appelle souvent fonds secrets. Et c'est un point qui va constituer une continuité jusqu'aujourd'hui, un vrai débat. Est-il normal, est-il indispensable qu'une part de l'argent public, votée par les chambres, soit utilisée à des finalités, selon des finalités secrètes ?
Alors effectivement, c'est une novation très importante des monarchies constitutionnelles et c'est un héritage qui encore aujourd'hui existe. C'était en effet à la fin des années 1820 que l'on voit apparaître un chapitre dans le budget. Le budget, c'est une innovation britannique d'ailleurs, que la France de la Restauration adopte au Parlement. Mais dans cette innovation britannique, on met une once d'idées françaises qui est donc de laisser à la disposition du gouvernement un chapitre particulier, une division du budget pour ce que l'on appelle à l'époque les dépenses secrètes. Il y a des dépenses secrètes pour les affaires étrangères, il y a des dépenses secrètes surtout pour l'intérieur, qui sont à la fois des fonds qui vont permettre de financer la police politique, mais aussi de financer les élections et la presse qui va accompagner les candidats ministériels.
Et éventuellement l'espionnage à l'extérieur, pour payer des agents, des indicateurs qui vont renseigner avec de l'argent liquide.
Alors tout se fait bien sûr en liquide. Il est difficile d'ailleurs dans les archives d'en trouver la trace. On trouve dans les documents budgétaires que j'ai pu notamment exhumer à votre suite, puisque c'était vous qui avez été le premier historien à mentionner l'existence de cette innovation sous l'époque des monarchies constitutionnelles. Il reste quand même des traces, mais il ne reste pas de traces ni de l'argent ni des reçus, bien évidemment.
Dans l'entre-deux-guerres, on peut débusquer un certain nombre de traces intéressantes, des souvenirs, la manière dont les ministres successifs des Affaires étrangères se repassaient l'argent. Certains se sont montrés fiers d'avoir augmenté la somme qui était dans le coffre-fort et d'autres, au contraire, ont constaté que dans l'intervalle, ils avaient fondu toute la question de l'utilisation des fonds secrets à des fins électorales en particulier.
C'est l'essentiel de la dépense des fonds secrets dans l'entre-deux-guerres notamment. Ce sont des fonds d'influence politique et c'est très intéressant de regarder sur un siècle, depuis les monarchies constitutionnelles jusqu'aux années 30 et 40, la permanence du débat politique. Chaque année, lorsque le budget fait l'objet d'un débat, il y a un affrontement rituel avec les mêmes arguments évoqués de part et d'autre. Le scandale du côté des Républicains puis des Socialistes et le mal nécessaire du côté du gouvernement. C'est tout à fait ritualisé et très intéressant à relever. Mais ce qui est absolument certain, c'est que dans l'entre-deux-guerres, ce ne sont plus des fonds qui servent exclusivement à de l'influence à l'extérieur du territoire, à financer les missions des agents secrets, c'est largement des fonds utilisés pour les candidats du gouvernement.
Alors que par exemple, pendant la Grande Guerre, on voit cet argent servir largement à aller acheter des plumes à l'extérieur, dans les pays neutres en particulier, ou même, il y a même une histoire topique qui est celle de personnages louches expliquant au gouvernement français, c'est à l'époque des dernières années de la guerre, qu'il est possible d'acheter un journal allemand avec de l'argent secret. Et naturellement, le journal allemand ne change pas sa ligne. Et les intermédiaires expliquent au gouvernement français que s'il changeait cette ligne trop brusquement, on devinerait qu'il a été acheté. Donc que pour être utile, il faut qu'il ne la change pas. On est en pleine contradiction et il y a beaucoup d'argent qui s'évapore de la sorte de façon absurde.
Et cette politique qui consiste à essayer de trouver des journaux qui vont permettre de faire de l'influence pour la France, soit en Italie, soit en Allemagne, c'est une réalité qui remonte à la Troisième République avant même la guerre. Et les services secrets, c'est-à-dire la section de statistiques fameuse depuis l'époque de l'affaire Dreyfus, a essayé, dès les années 1880, avant le scandale Dreyfus, d'acheter des journaux, parfois de toutes pièces, parfois à influencer des journaux existants, sans avoir d'ailleurs une quelconque portée.
Le gouvernement de Lionel Jospin, au début de ce siècle, s'est efforcé de régulariser tout ça. C'est une vieille espérance socialiste. Un mot, Sébastien, Laurent, sur ce point.
C'est une étape effectivement très importante, car il y a avant et après le gouvernement de Lionel Jospin de ce point de vue-là. À partir donc du tout début du XXIe siècle, il y a une architecture législative nouvelle qui encadre et qui contrôle les fonds secrets. À partir de la Quatrième République, il y avait une petite commission qui s'occupait des fonds spéciaux, composée principalement de hauts fonctionnaires, souvent assez complaisants sur l'usage de cet argent. Depuis maintenant plus de près de 20 ans en France, il y a une commission de vérification des fonds spéciaux qui est une structure mi-parlementaire et dépendant en même temps de la Cour des comptes. Et le régime aujourd'hui des fonds spéciaux éloigne tout usage politique, politicien. Ces fonds spéciaux sont utilisés par les services secrets pour leurs objectifs à l'extérieur du territoire français.
Alors que bien sûr, jusque sous la 4e République, leur usage électoral était en fait avéré.
L'usage électoral est tellement avéré que les débats du 19e siècle et de l'entre-deux-guerres continuent sous la 4e République et on les voit ressurgir après 1958 lorsque l'opposition, principalement socialiste bien évidemment, ne cesse de dénoncer jusque dans les années 70 de façon très vive cet usage politique par la majorité gaulliste des fonds spéciaux. Là-dessus, on retrouve notamment dans les commissions parlementaires des documents tout à fait intéressants et tout à fait inédits à cet égard.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, Sébastien Laurent, venons-en maintenant à la question de l'équilibre entre le rôle des diplomates, le rôle des militaires et éventuellement de la police dans cette action des services secrets. Sur le rôle des attachés militaires qui ont été mis en lumière à la fin du Second Empire et au moment de l'affaire Dreyfus, cette archive, ce propos de Michel Jobert. Michel Jobert, on se le rappelle, a été secrétaire général de l'Élysée à l'époque de Pompidou et ensuite un ministre des Affaires étrangères très, très marquant. On l'interroge dans les Nuits magnétiques le 30 janvier 1986. Il était encore au pouvoir comme ministre d'État au début des années Mitterrand, mais il a quitté les palais nationaux. Écoutons-le.
Alors, est-ce qu'il faut que les services de renseignement soient installés dans les ambassades? Alors ça, c'est autre chose. Je dirais que ça n'ajoute pas grand-chose. Il est vrai que, de temps en temps, pas partout, il y a des gens qui reçoivent une couverture. C'est-à-dire qu'ils ont une attribution diplomatique dans une ambassade. Il est évident que les attachés militaires, aussi distingués qu'ils soient, ne sont pas des gens qui font de l'espionnage à proprement parler. Enfin, ils s'intéressent probablement, d'une part, à vendre nos matériels dans le pays où ils résident, et en tout cas à savoir de quoi ce pays a besoin. Donc ce sont des gens qui s'informent. Et puis quand il s'agit de pays qui, par leur poids militaire, nous menacent, nous aimons bien savoir, si nous le pouvons, de quoi il s'agit exactement. Alors je ne dis pas ça pour justifier l'espionnage à partir de nos ambassades, mais il faut comprendre.
Ah, qu'en termes galants, ces choses-là sont mises, Sébastien Laurent. Prudence qui, en même temps, ne cache pas des réalités simples et fortes.
Oui, le propos de Jobert est très éclairant, pour peu qu'effectivement on sache lire entre les lignes et entre les mots. Michel Jobert dit une réalité très importante, qui qui est à la fois politique et juridique, c'est-à-dire que les ambassades, toutes les ambassades, pas seulement les ambassades de France, toutes les ambassades sont des lieux de collecte de l'information. D'ailleurs, c'est le texte fondateur sur les agents diplomatiques, qui est un texte de droit international de 1961, qui explique que c'est une des missions diplomatiques, une des missions de la diplomatie, que de collecter de l'information. La seule chose, c'est que il faut collecter de l'information ouverte et que la collecte de l'information fermée n'est pas licite au regard du droit de l'État dans lequel on se trouve. Et depuis le XVe siècle, date de la création de la diplomatie moderne, la diplomatie sédentaire, jusqu'au XXe siècle, il y a eu des tentations, peut-être chez certains attachés militaires, parfois chez des diplomates, de transgresser ces règles. C'est le cas, par exemple, en France, de l'attaché de défense français, on disait à l'époque attaché militaire, à Berlin, à la fin du Second Empire, le colonel Stoffel, qui est le témoin effaré, il faut lire ses rapports, qui est le témoin de la puissance et de la vitesse du réarmement ou de l'armement de ce royaume de Prusse.
Intéressant ce Stoffel, effectivement, vous braquez l'attention sur lui dans un de vos livres et il mérite qu'on lui accorde quelques minutes de ce propos.
Oui, parce que Stoffel, c'est un peu un prophète biblique, c'est-à-dire qu'il prêche dans un désert et le peuple ne l'écoute pas, le peuple juif ne l'écoute pas, et le peuple français, les autorités françaises, la cour du Second Empire, n'a pas du tout écouté Stoffel. C'est fascinant de constater que ces rapports, qui d'ailleurs sont publiés dans les années 70 chez un éditeur qui a pignon sur rue à Paris, ces rapports détaillent par le menu la puissance de l'armée allemande, quasiment au fusil près. Et Stoffel a fait parvenir ces rapports. On sait, là aussi on retrouve les archives, qu'ils ont été portés à la connaissance des secrétaires les plus proches de Napoléon III. On sait dans certains cas que Napoléon III a consulté lui-même certains de ces rapports. Donc la bonne information, le renseignement est parvenu jusqu'au souverain, jusqu'au chef de l'État.
En vain.
En vain. Et comme souvent, le renseignement n'a pas été bien utilisé, il n'a pas été exploité, diraient les spécialistes du renseignement.
Après la guerre de 71, on s'efforce de tirer la leçon de cette affaire, même si les républicains, dans un premier temps, affirment qu'ils n'aiment rien qui soit secret. On a des textes, surtout sous l'Empire. Par exemple, j'observe que Jules Bastide, dans le Dictionnaire politique, encyclopédie du langage et de la science politique, républicain, critique la police impériale en ces termes. Dans l'article « Espion-espionnage », l'espionnage est la ressource d'un gouvernement qui se sent faible parce qu'il n'est que l'expression d'un intérêt individuel au milieu des intérêts généraux. La police devrait être la gardienne de l'ordre et de la morale publique. L'espionnage est un moyen de corruption qui ne rend pas même en services utiles ce qu'il fait perdre de valeur morale à ceux qui l'emploient, car il n'a jamais rien empêché, rien prévenu. Dès que la Troisième République est au pouvoir, elle pense que l'espionnage peut au contraire empêcher et prévenir. Et c'est le temps où se développe un service dit de statistiques au ministère de la Guerre, un service qui marque que les militaires, par rapport à la police, vieux débat, tâchent de reprendre la main. Service de statistiques. Sans la connaissance de celui-ci, on ne peut pas comprendre les débuts de l'affaire Dreyfus.
Exactement, ces services de statistiques est important parce qu'ils montrent, comme vous l'avez dit, la première découverte par les républicains des contraintes du pouvoir et des contraintes de l'État. L'État, finalement, impose ses règles aux républicains. Les républicains, après avoir dénoncé, comme Jules Bastide le faisait, les affres de l'espionnage politique...
Mais en 1860, 10 ans avant d'être au pouvoir.
10 ans avant, mais 10 ans après, ils s'adaptent. Et ils conservent et ils augmentent même les moyens de la police politique qui a été créée dans sa version moderne par le Second Empire en 1855 précisément.
On le voit bien dans les passionnants mémoires d'Andrieux, Louis Andrieux, qui est un préfet de police coruscant dans les années 80, qui est d'ailleurs le père de Louis Aragon, mais cela n'a pas de rapport avec notre sujet.
Effectivement, les républicains vont devoir comprendre que gouverner un État, conduire une majorité suppose d'utiliser un certain nombre de techniques, d'éléments qui ne ressortissent pas aux règles républicaines. Et c'est ainsi que les républicains au gouvernement vont conserver les services de renseignement policiers et vont donner des moyens sans précédent au tout nouveau service de renseignement militaire qui est cette section de statistiques.
Alors quel rapport avec les débuts de l'affaire Dreyfus, avec l'ignominie de l'erreur judiciaire ?
Eh bien, cette section de statistiques, elle joue un rôle central dans une affaire d'espionnage et dans une affaire de contre-espionnage qui est cette affaire Dreyfus qui est bien documentée aujourd'hui. C'est cette section de statistiques qui polarise tout à fait la mentalité obsidionale de la France de cette époque, une France qui est assiégée par l'espionnage allemand. Et c'est la raison pour laquelle les ministres de la guerre, qui sont presque tous des généraux, c'est très important, les ministres de la guerre de la Troisième République sont des officiers généraux. Ce ne sont pas des républicains. Une grande partie de ces officiers généraux qui gouvernent, qui dirigent le ministère de la guerre, ont une culture républicaine assez fraîche, voire une absence de culture républicaine. Les républicains confient aux techniciens de la chose militaire, que sont les militaires, le soin de diriger le ministère de la guerre. Et ce faisant, les ministres de la guerre vont accorder les coups des franches aux services de renseignement et de contre-espionnage, et notamment cette section de statistiques.
Avec en face d'eux des attachés militaires autrichiens, italiens, allemands, qui sont eux-mêmes clairement les acteurs d'un espionnage, puisqu'ils s'efforcent de savoir ce qui se passe au cœur de l'armée française.
C'est le début de l'affaire Dreyfus que vous venez d'évoquer. L'espionnage mutuel que les attachés militaires italiens et allemands pratiquent contre la France à Paris est surpris par une femme de ménage qui travaille à l'ambassade d'Allemagne à Paris.
Madame Bastian, corrigez-moi, n'hésitez pas.
Madame Bastian est effectivement une personne qui va apporter au service de la section statistique des bribes de documents déchirés qui attestent de l'intensité de l'espionnage italo-allemand à Paris. Et c'est le début de l'affaire Dreyfus puisque la section statistique est persuadée que le responsable de cette action d'espionnage n'est rien d'autre qu'un capitaine de l'armée française, Alfred Dreyfus. La section de statistique se trompe très lourdement et à partir de ce moment-là, cette affaire de contre-espionnage qui montre l'inefficacité du service français en la matière devient une affaire politique, judiciaire, énorme et qui devient une des grandes crises de la vie politique française de la fin du 19e et du début du 20e siècle.
Est-ce que vous pouvez comparer l'organigramme de l'espionnage et aussi de l'information ouverte de cette époque avec celle d'aujourd'hui et la complexité de nos services, toujours marquée par une rivalité potentielle entre militaires et policiers?
Alors c'est très important de procéder de la sorte, une comparaison entre hier et aujourd'hui, parce que c'est une interrogation qui porte sur le temps favori de l'historien, c'est-à-dire le temps long. Eh bien, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? Eh bien, c'est que une organisation relativement simple, comme à la fin du 19e siècle, c'est aujourd'hui fortement complexifié. C'est-à-dire que les services ont cru, ils se sont spécialisés. Là où il y avait, à la fin du 19e siècle, une section de statistiques et ce que l'on appelait la police secrète, c'est-à-dire la police de renseignement, il y a aujourd'hui 6 services officiels qui sont l'équivalent, les successeurs de ces 2 services de la fin du 19e siècle.
Rappelez-nous.
Alors, il y a 3 services qui relève du périmètre administratif du ministre de la Défense, la DGSE pour le renseignement extérieur.
Qui est en fait l'héritière du SDEC.
Et donc de la section de statistiques. Il y a ensuite,
avec moins de pudeur ou d'euphémisation que le mot statistique.
Certes, c'est beaucoup plus clair. Direction générale de la sécurité extérieure. Il y a également la direction du renseignement militaire. Et puis, la DRM. Et puis, il y a un service qui a changé récemment de nom et qui s'appelle la DRSD. Et il y a un service qui a récemment changé de nom qui était la sécurité militaire et qui est devenue aujourd'hui la DRSD.
Et puis il y a eu la fusion récente de la DST, sécurité du territoire, et des renseignements généraux. Cela date de la présidence de Nicolas Sarkozy.
Effectivement, c'est une mutation de 2007-2008. Et là, nous passons au renseignement intérieur qui relève du ministre de l'Intérieur.
Mais les choses sont toujours très liées.
Mais les choses sont tout à fait liées. Ce qui est très intéressant, c'est de voir l'effort de l'État pour essayer de bâtir des organigrammes relativement clairs, de définir des ressorts d'intervention entre l'intérieur et l'extérieur. Dans la pratique, en France comme dans toutes les démocraties libérales, les échanges, les coopérations, parfois les luttes entre les services intérieurs et extérieurs sont relativement importants.
Et puis il y a des moments où les services secrets échappent à la volonté des dirigeants politiques, ou en tout cas la volonté de certains d'entre eux. Je voudrais vous conduire vers l'affaire du Rainbow Warrior, qui, en 1985, a ébranlé l'État. On est dans les années de la présidence de François Mitterrand. Et cela jette une certaine lumière sur un degré d'autonomie des services secrets par rapport au ministre, peut-être. Le ministre était Charles Hernu. Et qui va se terminer par ces propos du Premier ministre, Laurent Fabius, qui marque une distance prise par rapport aux services secrets avec une fermeté dont vous allez pouvoir juger. Et après, vous nous expliquerez ce dont il s'agit.
Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Cette vérité a été cachée au conseiller d'État Tricot. J'ai rendu compte au président de la République de ces faits graves. Et nous avons estimé que des mesures immédiates s'imposent. Premièrement, un nouveau chef de la DGSE sera nommé dès le prochain Conseil des ministres. Il devra prioritairement réorganiser l'ensemble de ses services. Deuxièmement, le gouvernement est favorable à la création d'une commission d'enquête parlementaire. Les simples exécutants doivent évidemment être mis hors de cause, car il serait inacceptable d'exposer des militaires qui n'ont fait qu'obéir aux ordres et qui ont parfois accompli dans le passé pour notre pays de très dangereuses missions.
Alors il faut, Sébastien Laurent, que vous expliquiez ce qui s'est passé pour les plus jeunes de nos auditeurs et de nos auditrices qui sont innombrables.
C'est une parole grave du Premier ministre qui est une illustration du fait que les services de renseignement sont toujours à grande proximité du pouvoir exécutif et notamment du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les services secrets français ont coulé un navire de l'organisation Greenpeace. En Nouvelle-Zélande. Cette organisation menaçait de perturber la série d'essais nucléaires qui allait être organisé par le centre d'expérimentation du Pacifique. Le drame, c'est que dans le port d'Auckland, la bombe qui est posée tue un photographe. Et cette affaire devient un problème diplomatique très important parce que des agents français de la DGSE sont arrêtés en Nouvelle-Zélande. Ceci illustre une autre caractéristique des services de renseignement. Ils ne sont pas seulement des producteurs d'informations enrichies, ce sont parfois aussi des services qui sont dans un registre de la force, de la coercition, et en l'occurrence de l'action clandestine. Et ceci renvoie à un type d'activité qui apparaît dans les services français au moment de la Deuxième Guerre mondiale et de la lutte contre l'occupant allemand.
Service action. Alors revenons à cette période de 39-45, qui est en effet une matrice de beaucoup de comportements d'aujourd'hui et qui explique le choix d'un certain nombre de structures.
Effectivement, et de ce point de vue, on peut dire que ce que l'on a appelé le service action, aujourd'hui on parlerait peut-être de direction des opérations, eh bien ce type d'activité est né dans les services français lors des combats de la résistance, dans lesquels la résistance intérieure a été fortement aidée par la résistance extérieure et par les Britanniques. Incontestablement, les premiers agents des services d'action français qui œuvraient sur le territoire français ont été fortement influencés par l'école, avec un grand E, l'école du sabotage, l'école de l'action clandestine, qui est une école qui naît en Grande-Bretagne, un peu d'ailleurs avant le déclenchement de la guerre, à la fin des années 30, puisque ce sont les Britanniques qui vont inventer ce concept de guerre couverte, de guerre hybride, qui est très à la mode aujourd'hui.
Couverte, c'est-à-dire, expliquez-nous.
C'est une guerre qui n'est pas déclarée, c'est une guerre où il n'y a pas d'uniforme, c'est une guerre qui se passe dans l'ombre, c'est une guerre dans laquelle on emploie des moyens qui ne ressortissent pas au champ de l'action militaire classique telle qu'elle est couronnée par le droit international. Et cette guerre clandestine, en un mot, elle est inventée, théorisée par les Britanniques, et ils vont former un grand nombre de résistants en Europe, pas seulement en France. Et de ce point de vue, un certain nombre de services action sont les successeurs des techniques, même si bien évidemment il y a un métier français, puisque l'essentiel et la totalité même des forces de la résistance sont des citoyens français qui travaillent pour les services français à Londres.
C'est le BCRA qu'anime, que dirige le colonel Passy. C'est ton pseudonyme, il habitait près de la maison de Radio France. En fait, c'est De Vavrin qui va, jusqu'après la guerre, avoir un rôle en particulier pour créer, dans la suite du BCRA, le SDEC, le fameux Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage. C'est un décret du 4 janvier 1946 qui en fixe de la sorte la mission, rechercher à l'étranger tous les renseignements et toute la documentation susceptible d'informer le gouvernement, détecter et signaler aux administrations intéressées les agents des puissances étrangères dont l'action serait susceptible de nuire à la défense nationale et à la sûreté de l'État. Fin de citation. Mais on ne dit pas encore, comme on peut le lire sur le site de la DGSE aujourd'hui, héritière du SDEC, qu'elle dispose d'une capacité d'entrave et d'action clandestine. Quelque chose de plus.
Effectivement, et à partir de 1982, date du décret créant la DGSE, c'est à l'époque de l'amiral Lacoste, à partir de 1982, les services français décident d'assumer cette capacité d'entrave. Cette capacité d'entrave, comme vous l'avez dit, elle renvoie directement à cette possibilité de l'action clandestine. En 1946, lorsque le SDEC est créé par le colonel André De Vavrin Passy en résistance, lorsque Passy donc crée le SDEC en 1946, il reprend l'héritage britannique, pas seulement dans les usages de la guerre clandestine, mais aussi dans la structuration de ce service. Le SDECE de 1946, le SDEC, il est rattaché à la présidence du Conseil, comme l'Intelligence Service, depuis 1909, est rattaché au Premier ministre britannique. Et ça, c'est une singularité des Britanniques par rapport aux différents exemples italiens, allemands ou français.
Et pourtant, la DGSE, nous entendons le Premier ministre affirmer qu'il n'a rien su de cette action et impliquer que c'est le ministre de la Défense, c'est-à-dire Charles Hernu, qui perdra son portefeuille, qui aurait été seul à le savoir. On n'a jamais su si le président de la République avait été oralement informé.
Effectivement, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'une autre affaire dans laquelle les services français n'ont pas été impliqués, contrairement à ce qu'on a pu dire à l'époque, une autre affaire, l'affaire Ben Barka en 1966, a eu pour conséquence que d'un coup de plume, le général de Gaulle retire la tutelle du service de renseignement extérieur au Premier ministre et le confie à un ministre légionnaire de formation en qui il avait grande confiance.
Nous avons reconnu Pierre Messmer.
Effectivement. Et à partir de 1966, c'est le ministère des Armées, ministère de la Défense, qui a la main administrative, en quelque sorte, qui a la main sur le service de renseignement extérieur et non plus le Premier ministre. Il s'agissait, et c'était politiquement nécessaire et très intelligent de la part du général de Gaulle, d'éloigner les services du gouvernement, de les mettre sous la tutelle d'un ministre, certes important, mais pas sous la tutelle du Premier ministre, pour ne pas l'exposer politiquement en cas de scandale. Et de ce point de vue, le propos du Premier ministre Laurent Fabius est très clair. Ce n'est pas lui qui a la main sur la DGSE qui a commis cette opération du Rainbow Warrior. C'est l'un de ses ministres, Charles Hernu, le ministre de la Défense, qui va donc quitter le gouvernement.
Ce que vous disiez sur l'influence des services secrets britanniques sur les nôtres, en particulier sur De Vavrin, sur le BCRA, pose la question de la collaboration des services secrets, ce que l'on se dit, ce que l'on ne se dit pas. Avec l'arrivée du terrorisme djihadiste, on ne peut se défaire de l'impression que cette collaboration s'accentue, que chacun éprouve que c'est nécessaire. Peut-être la réalisation est-elle insuffisante, mais c'est un autre volet important de cette réflexion que nous conduisons ce matin sur la politique de l'ombre sur les services secrets.
Eh bien, dans cette politique de l'ombre, il n'y a aucun service qui ne soit accompagné. Et ceci n'est pas nouveau. Aujourd'hui, face à une menace terroriste, qu'est le terrorisme de nature djihadiste, les services de renseignement de l'ensemble des pays collaborent quotidiennement, collaborent presque à la minute. Mais dès les origines du phénomène terroriste au XIXe siècle, on voit collaborer les polices de renseignement de l'époque.
Vous parlez des anarchistes dans les années 1890.
Effectivement, la lutte contre le terrorisme nihiliste anarchiste à la fin du XIXe siècle, en Russie, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, est une lutte très largement internationalisée, c'est-à-dire que les administrations policières, et parmi ces administrations policières, les services de renseignement policiers, échangent de l'information, échangent du renseignement pour traquer, avec un relatif succès dès cette époque, les auteurs de ces attentats. Donc, il y a une véritable structuration du système international par ces coopérations qui sont bien antérieures à la lutte actuelle contre le terrorisme.
Coopération et rivalité, ouverture à des fichiers et au contraire secrets entourant des actions, il y a là une sorte de tension qui est vouée à être permanente.
Elle est tout à fait permanente et l'affaire Snowden de l'été 2013 a révélé à quel point le terme d'allié n'avait pas de sens. Qui a cru un instant que le terme d'allié avait un sens? On ne peut plus aujourd'hui l'employer. Il n'y a que des partenaires éphémères qui collaborent, qui échangent du renseignement, mais qui dans le même temps peuvent pratiquer ce que les Britanniques appellent le « friendly spying », qui accompagne les collaborations.
Pourtant, cette solidarité a fonctionné au moment d'une affaire retentissante au début des années Mitterrand. C'est l'affaire Farewell qui implique un espion occidental à l'intérieur du système de l'URSS. Rappelez-nous ça.
C'est une histoire tout à fait stupéfiante qui, dans les annales de la guerre froide, on peut aujourd'hui dire qu'il y a des annales pour la guerre froide, qui, dans les annales de la guerre froide, n'a pas d'équivalent. Il y avait des taupes, il y avait des défecteurs, des individus qui quittaient l'Union soviétique pour aller passer à l'Ouest et livrer des informations. Dans le cas de cette affaire Farewell, eh bien, c'est un lieutenant-colonel du KGB qui souhaite travailler pour la France, mais sans quitter Moscou. Il court des risques considérables et il est traité, comme disent les spécialistes du renseignement, par l'attaché militaire adjoint à Moscou.
Cela confirme que les prudences de Michel Jobert étaient, disons, euphémisées à la situation.
Il avait parfaitement compris la réalité de tout cela. Et dans le cas de cet attaché militaire adjoint à Moscou, qui de 81 à 82 va rencontrer à de très nombreuses reprises Vladimir Vetrov, il le fait sur ordre. Et c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas une initiative locale, c'est l'ADST à qui a été confié par le gouvernement le soin de traiter cet officier du KGB. Mais paradoxalement, les seuls moyens dont la France peut disposer à Moscou, c'est un attaché militaire adjoint. Donc on a là l'exemple à nouveau du caractère un peu erratique, du caractère un peu non rationnel de l'organisation des services de renseignement, qui plus est dans un pays, à l'époque de la guerre froide, particulièrement surveillé, qui plus est à Moscou.
D'ailleurs, l'espion a fini fusillé. C'est curieux que vous parliez de DST, puisqu'en principe, la DST s'occupait de l'intérieur et non pas de l'extérieur.
Eh bien, ce que vous dites illustre tout à fait les difficultés du travail de renseignement et de contre-espionnage. Il n'y a pas de limite possible entre une frontière et une autre. La réalité du renseignement, qui est une information qui circule beaucoup par le passé, plus encore aujourd'hui à l'heure de la multiplication des réseaux, les frontières n'ont aucun sens pour les services. En revanche, au regard de l'État auquel ils appartiennent, il faut des délimitations juridiques et théoriques. Mais dans la pratique, les ressorts d'activité sont bien plus complexes, bien plus enchevêtrés, ce qui renforce, malgré les oppositions, les collaborations au sein de chacun des pays entre les services intérieurs et les services extérieurs. Et de ce point de vue, cette affaire Farewell est l'illustration d'une bonne collaboration entre l'ADST, le service de renseignement et de contre-espionnage français, et les armées de l'époque.
Mais sans avoir l'oreille très fine, on peut entendre en face l'écho d'un certain nombre de rivalités entre les services. En tout cas, on voit beaucoup ça dans la littérature. Peut-être dans la réalité, n'est-ce pas entièrement absent?
Cette réalité est aujourd'hui documentée par des éléments d'archives et on voit la trace de ce que, effectivement, une certaine littérature ou un certain cinéma ont appelé les guerres ou la guerre des polices. Il y a toujours eu des guerres des polices, des guerres de police de renseignement, dès l'apparition des services en France, par exemple, à la fin du 19e siècle. C'est un jeu permanent entre des rivalités, des affrontements et des coopérations. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'ère des grandes oppositions frontales, terribles, puisque l'affaire Dreyfus, c'est aussi une histoire de guerre des polices, l'ère de ces grandes affrontements frontaux est terminée et depuis plusieurs décennies maintenant, le temps est venu d'une coopération sans cesse plus forte entre les services.
Il y a aussi la question du partage des fichiers qui est si importante. Le carnet B, bien connu par les historiens, qui au début de 1914 donnait la liste de méchants instituteurs supposés antimilitaristes et qui n'a pas été utilisé par le ministre de l'Intérieur Malvy. Ce carnet B a été poursuivi dans l'entre-deux-guerres, en particulier aux dépens des communistes ou prétendus communistes. Et cela n'est pas sans annoncer peut-être les fichiers Est aujourd'hui avec les mêmes problèmes, non ? Je me trompe ?
Vous avez parfaitement raison. Il y a une continuité dans l'activité de fichage de la part de l'autorité policière. On peut même remonter bien en amont, à l'époque de la Régence.
Oui, remonter.
Et restons à Paris, dans la lieutenance générale de police de Paris, à l'époque de la Régence, on voit apparaître les embryons des fiches S. Ce sont ce que l'on appelle des gazettins de police, dans lesquels les indicateurs, les mouches, il y a à l'époque de la Régence environ 300 à 400 agents pour la seule lieutenance générale de police de Paris, qui vont dans les cabarets, qui vont dans les salles de spectacle, écouter. Humer l'air du temps, humer les paroles insidieuses, les paroles calomnieuses pour la monarchie, pour le souverain ou pour le régent à l'époque. Et on trouve donc trace de ces documents, c'est écrit au fil de la plume, ces gazettins de la Régence. Aujourd'hui, les fiches S, on peut le penser, sont en tout cas plus structurées. Mais effectivement, gazettins de la Régence, carnet B de la Troisième République, fiches S de notre Cinquième République, il y a une forte continuité dans les pratiques par lesquelles les administrations du renseignement écrivent les informations sur les personnes suspectes.
Continuité, et en même temps, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur l'influence de l'émergence des nouvelles technologies qui changent beaucoup de choses. Vous êtes frappé à cet égard par la continuité ou par la rupture, Sébastien Laurent ?
Alors moi, je suis tout à fait persuadé que aujourd'hui, la nature de la surveillance qui est exercée est tout à fait différente. Certains voudraient croire qu'à l'heure du numérique, eh bien, il y a une surveillance massive dans tous les pays auxquels la France n'échapperait pas. Je suis persuadé du contraire. La surveillance n'est pas du tout massive. Le rapport récent publié par la commission qui contrôle l'activité de recueil des techniques de renseignement atteste que cette surveillance se fait sur des personnes suspectes et qu'elle est numériquement peu importante.
Qui a été mise en lumière, commission qui a été mise en lumière au moment de l'adoption toute récente de la loi sur le renseignement.
Alors, ce qui a beaucoup changé dans l'histoire de la République, c'est que pendant très longtemps, les activités de police et de surveillance, de police politique et de surveillance, n'étaient pas l'objet d'un contrôle et n'avaient pas de base légale. Aujourd'hui, le cadre a considérablement changé. Il existe une base légale pour ce qu'on appelle les écoutes, mais depuis très longtemps, depuis notamment l'affaire des écoutes de l'Élysée.
Sous le contrôle de la justice administrative.
Sous le contrôle de la justice administrative, effectivement, depuis la loi de 1991, il existe un contrôle du renseignement. Les activités sont contrôlées par une commission parlementaire créée en 2007 et il existe depuis 2015 une loi sur le renseignement qui donne une base légale, une base reposant sur un texte de loi débattu par les parlementaires et validé par le Conseil constitutionnel.
Moyennant quelques amendements, mais de minimes de la part du Conseil.
Oui, l'essentiel du travail parlementaire a été respecté et la loi sur le renseignement de 2015 est la première loi républicaine sur le renseignement qui complète l'édifice qui avait débuté avec la loi sur les écoutes de 91 et la création de la délégation parlementaire au renseignement en 2007.
Est-ce qu'elle est marquée par l'apparition des nouvelles technologies d'Internet, de ce contrôle tout à fait spécifique qui est permis par la toile ?
Effectivement, c'est un des acquis de la loi de 2015 et c'était une attente des spécialistes des services de renseignement que d'adapter le cadre légal et les pratiques de surveillance à l'égard des suspects à l'ère du numérique. La loi de 1991, c'était avant le déploiement des réseaux numériques, c'était avant la naissance de l'Internet, ou en tout cas son apparition en France, et c'était avant l'apparition du téléphone mobile. Et donc, il a fallu que le droit, la loi, s'adapte à ce que l'on appelle donc effectivement les nouvelles technologies, ces choses faites aujourd'hui. Et la France a, à l'image d'autres démocraties libérales européennes, un régime juridique qui encadre fortement les pratiques d'interception. Par exemple, beaucoup plus qu'aux États-Unis où le respect de la privacy dans l'environnement numérique est beaucoup moins fort qu'en France.
Il reste à s'interroger, pour finir, Sébastien Laurent, sur des éventuelles dérives de l'action des services secrets au profit des gouvernements, aux dépens des hommes politiques, des parlementaires qui seraient espionnés par ceux-ci. Est-ce que c'est un fantasme à vos yeux ou est-ce que c'est un péril contre lequel tous les démocrates doivent demeurer vigilants?
Je crois que sur ce sujet important, chaque citoyen a son avis. Ce que peut dire l'analyste, celui qui regarde le passé, c'est que...
C'est-à-dire vous.
C'est-à-dire, en effet, moi, c'est que les documents conservés dans les archives, la documentation, attestent de crises récurrentes, de hiatus entre les services de renseignement et le système des libertés publiques. Néanmoins, ce que je voudrais faire observer, c'est que si la tentation existe pour certains acteurs, souvent d'ailleurs issus du jeu politique, qui veulent eux aussi utiliser des moyens des services de renseignement, si cette tentation a pu exister, si elle existe peut-être encore, aujourd'hui, l'état du dispositif de contrôle est extrêmement puissant et empêche, à mon sens, l'émergence de cette instrumentalisation des services par le politique ou, à l'inverse, une situation qui irait dans l'autre sens.
Donc, que les hommes politiques en soient eux-mêmes persuadés, on peut le constater à entendre le propos de Charles Pasqua que nous avons inséré à l'intérieur de notre générique. Je suis sûr que vous avez reconnu sa voix, Sébastien Laurent.
On reconnaît là la voix d'un homme expert par ailleurs en montage politique. Il a été un des fondateurs du service d'action civique, ce service qui était ce qu'on a pu qualifier ensuite d'une officine, qui était un service d'ordre à l'origine, mais qui a monté un certain nombre d'affaires et qui n'a pas répugné. La commission parlementaire d'enquête sur la tuerie d'Auriol en 1982 a montré les pratiques absolument illégales de ce service d'action civique.
Le
SAC. Pasqua avait joué un rôle, le SAC, effectivement. Et en même temps, son recours à des écoutes et sa proximité avec certains services de renseignement politique des débuts de la Ve République, qui étaient tout à fait illégaux. Il n'y a aucun risque que ce genre d'affaires puisse à nouveau arriver.
Aucun risque, je vous remercie de nous le dire. C'est en effet dans la suite de la guerre d'Algérie, les barbouzes qui ont été actifs contre l'OAS. Il y a eu là une guerre cachée, des circonstances qui ont poussé les services secrets à développer leur volet d'action, comme on dit dans ces milieux.
Effectivement, la guerre d'Algérie, c'est après la période de l'occupation dont nous avons parlé. C'est le deuxième moment important pour les services français contemporains, dans la mesure où ils vont éprouver, dans la mesure où ils vont être confrontés à une véritable guerre civile. 61-62, les services sont en première ligne dans des affrontements meurtriers.
Eh bien, nous nous en tiendrons là, Sébastien Laurent. Je vous sais gré d'être venu à ce micro pour jeter de la lumière sur l'ombre. Votre livre, je l'ai dit tout à l'heure, s'intitule « Politique de l'ombre », politique au pluriel, « État, renseignement et surveillance en France ». Il est paru chez Fayard en 2009. Et puis, en 2014, aux presses de Sciences Po, vous avez donné un atlas du renseignement qui est très, très original. Dites-nous-en un mot, s'il vous plaît.
Mais j'ai voulu faire quelque chose de difficile, essayer de cartographier quelque chose qui n'existe pas, le renseignement, et essayer de représenter quelque chose qui, a priori, a peu de prise avec la géographie. Et donc, c'est un essai sous forme d'atlas pour essayer de montrer comment on peut représenter un des modes d'action de l'État. Et c'est pour ça que j'ai fait cet atlas du renseignement.
Vous cartographiez le mystère, c'est ça ?
On peut, c'est finalement un travail tout à fait historique de cartographier le mystère.
Je vous rejoins sur ce point avec satisfaction. Vous avez publié avec Olivier Forcade, qui est un autre historien majeur qui travaille dans le même champ que vous. Vous avez publié Secrets d'État, au pluriel, Secrets d'État, Pouvoirs et renseignements dans le monde contemporain, chez Armand Collin, 2005. C'est un livre collectif. Et je salue également le livre d'Olivier Forcade, qui s'appelle La République secrète, paru au Nouveau Monde en l'an de grâce 2007. Eh bien, je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur le site de Concordance des temps une bibliographie plus complète et que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger cette émission pour en savoir davantage sur ce qu'on ne dit pas ou ce que nous avons dit dans cette conversation, Sébastien Laurent. Je rappelle que cette émission a été diffusée une première fois le 18 février 2017. La semaine prochaine, avec le professeur Robert Darnton, nous rediffuserons une émission consacrée à l'histoire vraie des fausses nouvelles. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Nathalie Lempereur et de Guillaume Cotte, réalisée ce matin, je lui en sais gré, par Benjamin Hu, avec Éric Boisset à la prise de son, Marthe, Laurent, Clotilde, Fillot et Clary Monac nous ayant aidés du côté de l'Institut National de l'Audiovisuel, et Nathalie Rouvillain, de même, à la discothèque. Et dans quelques instants, vous allez rejoindre Étienne Klein pour son émission « La conversation scientifique ».